Jean-Bernard Leroy à l'appareil, nous allons donc parler de l'église de Sardes. Voici ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Note encore pour l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui possède les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes façons d'agir. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Prends garde et consolide le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc de quelle oreille accueillante tu as reçu la doctrine. Observe-la et repens-toi, car si tu ne deviens vigilant, j'arriverai comme un voleur et tu ne pourras savoir à quelle heure je te surprendrai. Tu as pourtant à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leur manteau. Elles pourront circuler avec moi vêtues de blanc parce qu'elles le méritent. Ainsi, le vainqueur se drapera de manteau blanc. Jamais je n'effacerai son nom du livre de vie. Et je le citerai devant mon Père et devant ses anges. Au bon entendeur d'écouter ce que l'Esprit dit aux Églises. Au temps de Saint Jean, Sardes était une cité opulente. L'un de ses rois fondateurs était le célèbre Crésus. Le message divin n'en est que plus sévère envers la ville. Il se présente comme celui qui possède les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. On reconnaît le Christ roi. Son message est bref et son jugement tranchant comme l'épée. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. L'avertissement est net. J'arriverai comme un voleur et tu ne pourras pas savoir à quelle heure je te surprendrai. On ne peut s'empêcher de penser au mauvais riche, lequel, soit dit en passant, n'était mauvais que par omission. Il ne faisait rien, précisément. Il ne faisait rien de mal non plus. La condamnation, toutefois, n'est pas totale. Il existe pourtant à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leur manteau. Elles peuvent circuler avec moi, vêtues de blanc, car elles le méritent. En conclusion, prends garde et consolide le reste qui allait mourir. Sardes, je dis, était la ville de la richesse. Et c'est le moment de parler de l'argent, qui tient actuellement un rôle prédominant, pour ne pas dire unique, dans notre société. Disons tout de suite que l'argent, la richesse, n'est pas un mal en soi. Il n'y a pas de mauvais riches dans l'Évangile. Les rois, il n'y a pas que des mauvais riches dans l'Évangile. Les rois, les riches propriétaires qui donnent des festins, par exemple celui du retour de l'enfant prodigue, ne sont pas des miséreux. Joseph d'Arimathie avait un sépulcre sur la colline qui domine Jérusalem. Emplacement de luxe, de riche, comme on dirait aujourd'hui. Ce qui lui permit toutefois d'entrer dans la gloire, puisqu'il reçut le crucifié pendant 3 jours, et d'innombrables pèlerins depuis. Que deviendraient nos arts, l'architecture, la peinture, la musique, le théâtre, s'il n'y avait de riches mécènes pour les favoriser? Saint Thomas d'Aquin dit que si la richesse n'est pas mauvaise en soi, elle est en revanche dangereuse, car elle risque d'accaparer toute notre âme. On le voit bien actuellement, dans certains scandales politico-financiers où l'argent prend toute sa place avec les parasites qui s'en mêlent. Saint Paul dit « Nous sommes les intendants des biens que Dieu nous a confiés ». Et son deuxième épître à Timothée, dans son deuxième épître à Timothée, il dit « Excusez-moi. Recommande aux riches de faire le bien, de s'enrichir en bonnes œuvres, de donner avec générosité et libéralité, de s'amasser ainsi pour l'avenir un solide trésor, moyennant quoi ils conquerront la vie véritable. De fait, il faut que les riches y dépensent en toute justice, permettant ainsi vivre de nombreux employés. Celui qui entre dans un hôtel de catégorie très médiocre, de première catégorie, ajuste sa carte de crédit à monter, personne ne l'aide, on fera les lits quand il sera parti, il n'y a pas de personnel. Celui qui va dans un palace permettra de vivre, la réceptionniste, la standardiste, ceux qui portent les bagages, les maîtres d'hôtel, les garçons, et tout un personnel qui ne pourrait vivre s'il n'y avait des gens pour les entretenir. Mais l'argent doit rester un serviteur, voire un serviteur méprisable, comme l'a dit notre professeur principal en hippotope, lors du cadeau traditionnel que les évêques offraient à Noël. Il demandait qu'on lui verse la somme en espèces. Une semaine plus tard, il nous lisait la lettre de remerciement que lui avait adressée la supérieure des petites sœurs des pauvres. Certains abandonnent toute richesse, ce qui leur évite les soucis d'une gestion, mais tout le monde n'a pas cette vocation. Il en est de même pour la virginité consacrée. Mais pour ceux qui restent dans le monde, il convient de rappeler que la richesse doit être utilisée en fidèles intendants. Ici-bas, tout est loué, disait ma mère, et en faisant profiter notre prochain. Pour saint Thomas, la vertu qu'il recommande aux riches de pratiquer est la magnificence. Cette correction semble aussi s'adresser à ceux qui, confortablement installés dans la religion par une pratique conforme à des conditions fixées par leur petite jugeote, s'estiment ainsi justifiés. Les lignes de conduite, que certes ils ont tirées de l'Évangile, leur semblent suffisantes. On retrouve l'esprit du pharisien de l'Évangile. L'amour se ramène au respect des clauses d'un contrat. Que penserait la jeune fille à laquelle son fiancé dirait « Je t'ai offert la bague et la robe dont tu rêvais, je t'ai emmené dîner dans un bon restaurant, donc je t'ai assez aimé. » Ou bien, le jeune homme dont la fiancée tiendrait ce propos « Je t'ai donné le livre que tu désirais, j'ai tapé ton rapport de stage, je t'ai donc suffisamment aimé. » On n'aime jamais assez. Les règles, la routine sont utiles pour acquérir ce que saint Thomas appelait un habitus. On dirait de bonnes habitudes, mais elles peuvent être mortelles quand elles vous engluent, quand elles sont érigées en absolu, ce qui revient à confondre la fin et les moyens. Je me rappelle avoir vu une excellente dame pleine de bonne volonté dire à propos des exploits qui entourent les saints, « Moi, personnellement, je me contenterai d'un strapontin. » Saint Augustin a dit que la seule mesure pour aimer était d'aimer sans mesure. La glissade est inévitable. On ramène la justice, certains diront la sainteté, au respect d'un ensemble de clauses, d'une espèce de cahier des charges. C'est le stade du pharisien. L'homme étant un animal social, on juge les autres, on ne devrait pas, certes, enfin, à ses comportements sociaux, sous l'angle du dit cahier des charges, décidant alors s'ils sont fréquentables ou non. On confond ainsi les règles de la morale et celles de la bienséance. Remarquons en passant que les contestataires font exactement la même chose, à ceci près que leurs critères sont diamétralement opposés. Comme le disait une vieille dame fort honorable, elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle disait, car elle était fort charitable, il faut pratiquer la religion de son milieu. On ne cherche plus aucun amour dans les habitudes contractées. Après tout, une bonne éducation a pour motif profond le respect dû à tout être humain. On s'estime juste, bien, honorable, voire parfait, uniquement en référence à un code extérieur de plus en plus arbitraire. On débouche sur la société dépeinte par Marcel Proust, pointilleuse sur bien des détails mondains, mais complètement dissolue. Le péché réside uniquement dans le scandale. Tartuffe disait déjà, et ce n'est pas péché que pécher en silence. On descend dans un puritanisme poussé à l'extrême avant de sombrer dans l'immoralité radicale. Car, comme l'a fait remarquer Gustave Thibon, la rigidité cadavérique précède de peu la liquéfaction totale. Il s'agit bien d'une culture de mort, comme celle qui règne de nos jours dans toutes les sphères de la société, notamment dans le monde politico-médiatique et chez les faiseurs de mode. La malédiction qui leur est adressée est celle des sépulcres blanchis et de toutes les invectives du Christ que saint Matthieu relate dans son chapitre 23. Le message de l'Église de Sardes nous enjoint de regarder le monde en vérité, de voir notre prochain avec le regard de Dieu, de retirer la poudre qui nous aveugle, de nous reconnaître pécheurs. Surtout, il nous incite à progresser dans le respect de l'amour plus que dans les tendances mondaines, insistant sur le fait que la charité nous impose le respect du prochain, car il est comme nous, unique en son genre, aimé de Dieu pour lui-même et racheté par le sang du Christ, et non parce qu'il est de la famille, de la même famille de pensée. Ce sont là toutes les grandes lignes de l'évangélisation au service de laquelle nous presse le Saint-Père. La récompense est de taille. Le vainqueur se drapera de manteau blanc, je le citerai devant mon Père et devant ses anges, bref, il sera mis dans la gloire, la vraie, qui passe infiniment celle des salons, des cercles politiques et des cénacles littéraires. Le don du Saint-Esprit correspondant est celui de la sagesse, une illumination du Saint-Esprit grâce à laquelle notre intelligence contemple les vérités de la foi dans une magnifique lumière et en éprouve une grande joie. Ce ne sont pas les plaisirs fragiles et frelatés des complaisances mondaines qui nous donnent la vraie joie, mais bien la contemplation des vérités de la foi. De plus, elle nous apporte la paix. La béatitude correspondante, c'est celle des pacifiques. Les règles du monde sont en effet torturantes et permanentes. Isaïe le notait déjà. Le jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous contraignez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en dispute et vous jouez du poing sans pitié. Qui n'a connu ces hommes importants qui ont mis une cloison étanche entre leurs pratiques religieuses et leur ambition professionnelle et se conduisent en vrai truands dans le civil, c'est-à-dire hors de l'Église, mais en conséquence sont toujours assoiffés de quelque profit ou de quelque gloire. Le péché capital correspondant est l'avarice. Et la forme moderne de cet asservissement est contenue dans la philosophie de Nietzsche, la volonté de puissance. « Dieu est mort », a-t-il dit. C'était inscrit sur un mur et quelqu'un a ajouté « Dieu est mort » signé Nietzsche. Il a ajouté « Nietzsche est mort » signé Dieu. « Dieu est mort », a dit Nietzsche. « Il appartient donc à chacun de se construire seul. Le but recherché étant le pouvoir sur ses semblables, sur un petit cercle pour le vaniteux, à une grande échelle pour ceux qui se classent dans l'élite, pour les orgueilleux, tout cela allant avec un mépris croissant pour les inférieurs. Ce genre de comportement fait de ceux qu'ils pratiquent des proies toutes désignées pour les flatteurs en tout genre. On sombre dans une société du même type que la nôtre, avec ces arrivistes sans scrupules, dont les efforts consistent à se mettre en avance, à se faire voir, à se faire entendre dans l'unique but d'être le premier dans les sondages. Ce n'est plus la réalité qui compte, mais l'efficacité. Notre hésitation à voler, à corrompre, à mentir, nulle hésitation à voler, à corrompre, à mentir, si le résultat est d'accroître son pouvoir. Une telle société ne peut que mener à la ruine, celle que dépeint l'Apocalypse dans son chapitre 18, un des plus réjouissants du livre. Notre histoire contemporaine donne maints exemples de cette ruine. Pour indiquer ces catastrophes, le messager de Sardes nous demande de nous consacrer à l'amour de Dieu et du prochain, afin d'amasser un trésor là où le voleur ne s'approche pas, où le ver ne ronge pas, comme le disait saint Luc, à ne pas regarder son nombril et surtout à éviter de se comporter aux autres en se jugeant moins pécheur. Il est certain que chacun a des dons que les autres n'ont pas, car l'humanité est extraordinairement variée. Mozart aurait été probablement un piètre plombier. Tous ces dons sont complémentaires, mais ce sont les cadeaux du bon Dieu qui entraînent le devoir de les mettre au service de tous. On parle beaucoup de droits, on ferait bien aussi de parler de devoirs. Rappelons la parabole des talents et demandons-nous si nous avons bien pensé à mettre nos qualités au service d'autrui. Le saint qui peut aider dans cette voie semble être saint Vincent de Paul, qui a toujours considéré les âmes, les pauvres, les galériens, les enfants abandonnés, comme ceux qu'il fallait servir, sans pour autant prêcher la révolte contre les grands dans le but de les détruire. Saint Vincent de Paul était tout, sauf un anarchiste. Il en est de même de Jacques Jugon ou de Mère Teresa. D'ailleurs, les grands ont aussi connu leur misère. J'ai connu un prêtre, les grands ont aussi leur misère. J'ai connu un prêtre remarquable que des organisateurs de croisières de luxe invitaient régulièrement à participer à l'une ou l'autre d'entre elles. Il était tout indiqué pour cela, car il connaissait parfaitement les usages mondains et jouait fort bien au bridge. Il m'a dit un jour: j'ai eu l'occasion d'exercer un des apostolats les plus fructueux de ma vie. Vous ne pouvez imaginer les détresses qui se cachent dans ces âmes pourtant comblées de biens matériels, mais précisément uniquement matériels. Mieux vaut chaumière où l'on rit que château où l'on pleure, dit la sagesse populaire. Et on pleure souvent dans les châteaux. Le Magnificat reste la prière type de l'humilité, ainsi que dans l'ancien ordo, les prières de la messe qui précèdent la communion. « Seigneur Jésus-Christ, ne regardez pas mes péchés, faites que je m'attache à vos commandements et ne permettez pas que je sois jamais séparé de vous. » On peut aussi répéter ces mots que saint Paul adressait aux Corinthiens. « Qu'est-ce qui fait ta supériorité? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en prévaloir comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Et plus loin comme conclusion, recherchez la charité et ainsi vous pourrez arriver au bonheur éternel. Tout ça est dans la première épître aux Corinthiens. Voilà. J'espère que je vais enfin transmettre ce message qui m'a coûté bien du souci, des soucis d'ordinateur. Et maintenant, à la prochaine fois, je vous souhaite une bonne entrée en automne.